On continue dans ce côté, comme tu le disais, un petit peu alors, free, libre, peut-être même dérangeant, j'imagine à l'époque, parce que on est peut-être maintenant un peu plus habitué à des sonorités voilà, multiples, peut-être même plus agressives. On imagine, je pense, très très mal aujourd'hui en 2014, l'effet que ça a pu produire sur les auditeurs, les spectateurs encore plus certainement, mais juste les auditeurs, de se dire mais qu'est-ce qui nous arrive, quoi? Et je crois qu'on peut dire la même chose du morceau qui va suivre, Machine Gun. C'est vraiment une espèce de geste sonore, quasiment d'agression.
Alors en fait, il s'avère, là pour le coup, pour redonner au public des années 60 ce qu'on doit lui donner, Hendrix fait pas partie des artistes maudits qui a été compris après sa mort. Hendrix, de son vivant, était une méga star, était déjà reconnu comme étant un immense musicien, y compris parmi ses pairs et les plus grands de ses contemporains. Miles Davis lui-même ne cessait de vanter le génie de Jimi Hendrix. Donc je dirais. Alors moi, j'ai pas forcément la même vision que toi sur le rapport à la musique. Je pense qu'au contraire, aujourd'hui, jamais un truc comme l'hymne américain sortirait au niveau grand public. Ça, c'est un truc qui était numéro un d'une parade. Aujourd'hui, il faut voir ce qui est numéro un d'une parade. Enfin, là, en l'occurrence, je pense que malheureusement, culturellement, on s'est littéralement effondré. Il y a des trucs qui sont très hardcore qui existent, mais c'est toujours underground. C'est jamais la culture de masse. Donc là, en l'occurrence, c'était la culture de masse. Donc c'est ça, à mon avis, qui est quand même assez intéressant. C'est qu'aujourd'hui, les gens comme ça, on les entend plus, en tout cas, à la radio. Alors, concernant Machine Gun. Alors vous avez vu jusque-là, on a vu quand même pas mal de morceaux assez courts, des morceaux comme Edge Joe, Purple Haze ou Hollando Watchtower, c'était des 45 tours, et c'était des morceaux qui étaient aussi destinés au public et à la radio. Alors, avec Machine Gun, on va vraiment passer à autre chose. En l'occurrence, ce que je vais dire n'engage pas que moi, hein, il y a un petit peu une sorte de consensus dans la communauté hendrixienne. Machine Gun est peut-être la plus belle performance de toute la carrière d'Hendrix. C'est-à-dire, c'est vraiment un morceau où guitaristiquement, il fait ce que beaucoup considèrent comme étant le solo du siècle. Je pense au solo du milieu de Machine Gun. Alors, ce qui est assez marrant en fait dans un morceau comme Machine Gun, c'est de voir comment Hendrix puise dans ses différentes influences pour créer un univers qui vraiment lui est propre. C'est-à-dire, lorsque vous allez écouter un morceau comme Machine Gun, pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait, c'est un morceau qui par beaucoup d'aspects. Finalement, fait penser au blues d'avant le blues de Chicago, finalement un peu au blues d'avant-guerre, avec justement des formes très libres. À l'époque, on n'avait pas encore structuré les 12 mesures comme c'est devenu le cas après avec le Chicago Blues. Et même si Hendrix, en tant que guitariste, a été influencé par le Chicago Blues, c'est-à-dire ça, je n'ai pas précisé, mais vraiment les grosses influences de Jimi Hendrix à la guitare, vous avez Albert King, ça c'est indéniable, énorme influence, bien sûr B.B. King. Mais aussi Buddy Guy, Freddie King, vous avez bien décidé qu'il y a beaucoup de King, autre Otis Rush et compagnie. Enfin voilà, Hendrix vraiment adorait ses musiciens et a vraiment repiqué tous leurs plans. Enfin, on voit qu'il a une culture de cette musique-là qui est absolument énorme. Alors, Machine Gun, c'est un cas un petit peu à part, parce qu'en fait, Machine Gun, pour le coup, vous allez avoir là pour le coup une musique qui s'inspire directement du blues. Mais dont la rythmique, en fait, ça fait peut-être plus penser au jam de Miles Davis de l'époque. En gros, vous n'avez même pas d'accord, vous avez juste différents riffs de basse qui vont succéder les uns les autres. Et donc, c'est en fait une forme qui est extrêmement libre. Et je vais juste dire deux mots sur le contexte là encore. Le groupe qui est né à Woodstock s'est quasiment désintégré dans la foulée. Il n'y a eu vraiment qu'une poignée de concerts qui ont été donnés. Et le mois de. Enfin, l'automne 69, c'est une période où Hendrix, en fait, avait une tournée qu'il annulait. Il a commencé à enregistrer en studio, mais là encore, ça n'aboutissait pas vraiment. Et il s'avère qu'Hendrix, en début de carrière, avait signé un contrat d'un dollar, c'est un dollar qui a coûté très cher au final, avec une des plus belles pourritures du show business, en l'occurrence quelqu'un qui s'appelle Esh Alpin. Qui, une fois qu'il s'est rendu compte qu'Hendrix était devenu une star en Angleterre, il lui a dit hey, tac, 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 mon coco, il s'avère que tu as signé un contrat d'exclusivité avec moi. Et pour le coup, après, je vous fais comment dire, la grâce du détail juridique, Hendrix s'est retrouvé à devoir un album pour Edge Alpine. Alors il s'avère que Hendrix, étant un perfectionniste absolu, il était clair qu'il n'avait pas du tout envie de lui donner un album studio fignolé comme pouvait l'être Electric Lady Dylan. Et il a décidé de faire quoi? Il a monté un groupe avec Buddy Miles, qui était pour le coup un musicien déjà assez connu à l'époque, qui était un batteur-chanteur très talentueux, très ambitieux, mais qui permettait justement d'avoir une couleur un peu plus sol à la musique d'Hendrix, continuer avec son ami de l'armée Billy Cox, et donc former ce trio, où le trio a donné 4 concerts en 2 jours, les 31 décembre 69 et 1er janvier 70, en se disant, voilà, avec ces 4 concerts, on va bien avoir la matière, un album, qu'on va proposer. Alors, ce qui est assez fascinant quand vous écoutez l'intégralité des 4 concerts, parce que ça en pirate, c'est assez facile d'écouter ça, c'est loin d'être les meilleurs concerts de Jimi Hendrix. Il y a des fulgurances absolument phénoménales, la plus grande étant Machine Gun. Et ce qui est incroyable, en fait, c'est de voir que le morceau Machine Gun lui-même, c'est un vrai work in progress. Pourquoi je dis ça? C'est-à-dire, aux 4 concerts, Hendrix a joué Machine Gun, et il n'y a pas une version qui ressemble. C'est-à-dire, les paroles, c'est même pas les mêmes. Les parties instrumentales ne se succèdent pas de la même manière, et il ne va pas forcément chanter les mêmes passages sur les mêmes riffs. Donc vous voyez, en fait, c'est vraiment un truc qui est en cours d'élaboration, c'est pas du tout fini. Mais là, pour le coup, c'est vraiment le génie du guitariste, parce que là, pour le... il n'y a aucun effet de studio, c'est vraiment Hendrix live, et c'est vraiment une des plus belles performances guitaristiques de tous les temps. Juste un petit point sur le thème, avant de parler de la musique. Le morceau s'appelle Machine Gun, effectivement, c'est un morceau où là, pour le coup, Hendrix dit tout haut ce qu'on présumait avec l'hymne américain. Et avec un aspect surprenant, c'est qu'en fait, Hendrix, dans le morceau, met en scène plutôt un Viet Cong. C'est-à-dire, à un moment, il parle de se battre avec une hache. On se doute bien que ce n'est pas les soldats américains, enfin, d'un fermier qui se bat avec une hache. On se doute bien que ce n'est pas un soldat américain qui va se battre avec une hache. Bon, après, il peut y avoir un jeu de mots sur axe et guitare. Enfin, en tout cas, le texte, finalement, à ce niveau-là, ils sont ambigus. Bon, après, il reste une vérité, c'est-à-dire le message sur l'absurdité et l'horreur de la guerre, il est universel, quel que soit le camp dans lequel on est. C'est toujours aussi horrible. Donc, je vous invite à écouter Machine Gun. Alors, le morceau est certes assez long, mais je dirais que c'est sans doute la plus belle performance de Jimi Hendrix. Thank you.
you can't survive.
Un peu d'applaudissements parce que c'est quand même effectivement un moment très très fort quand même. Ce Machine Gun,